soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Sophie Tussaud.
La mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux.
Édouard Philippe maintient sa ligne. Les régimes spéciaux de retraite disparaîtront, mais le Premier ministre se dit prêt à des transitions progressives. Il présentera la réforme mercredi prochain. Les syndicats ne désarment pas. Le week-end s'annonce très compliqué dans les transports, notamment à la SNCF et à la RATP en région parisienne. Willy Bardon est en réanimation ce soir. Il a été hospitalisé après avoir ingéré un produit, ce à l'issue de sa condamnation à 30 ans de prison pour le viol et la mort d'Élodie Kulik en 2002. Verdict ce soir de la cour d'assises de la Somme.
Justice est rendue à Élodie. Je me pourrais aller voir demain après-midi sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait mon travail.
Également dans l'actualité, Greta Thunberg à Madrid, la jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique a marché aujourd'hui avec des milliers de personnes pour engager les participants à la COP25 à en faire davantage. Le football, 17e journée de Ligue 1, Nîmes-Lyon, Romain Bozellier, c'est la deuxième mi-temps.
Effectivement, on joue la 58e ici, à Nîmes, un but à 0 pour Lyon, pénalty de Memphis Depay à la 16e, mais Nîmes joue à 9 contre 11, Valls et Paquès ont été expulsés dans cette rencontre, très chaude ambiance ici à Nîmes, où les dirigeants lyonnais ont été pris à partie, insultés en tribune, ambiance électrique ici à Nîmes.
Merci Romain Bozellier, on vous retrouve à la fin de ce journal. Comme tous les soirs, la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit tout à l'heure Thierry Cotillard, le président d'Intermarché, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1, le journal de la nuit.
Bonsoir à tous. On en saura plus sur la réforme des retraites dans le milieu de semaine prochaine. Édouard Philippe détaillera le projet mercredi à midi. En attendant, le Premier ministre maintient la ligne fixée par le gouvernement.
Je le dis tranquillement, la mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux. Je dis également à tous les personnels de la RATP et de la SNCF et à tous les Français qu'il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste, de changer les règles en cours de partie. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives, afin de ne pas être brutales.
Le Premier ministre Édouard Philippe. Jean-Rémy Baudot, on vient de l'entendre. Édouard Philippe maintient sa position, toutefois il ne ferme pas la porte au dialogue social.
Oui, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre martèle encore et toujours que malgré les blocages, malgré les grèves, la porte est encore ouverte aux syndicats. Édouard Philippe rappelle qu'il ne reviendra pas sur le principe d'une retraite universelle à points, que les régimes spéciaux vont bien disparaître. Mais sur la table, il resterait un certain nombre de points comme les rythmes de transition. On a encore des choses à négocier, promettons à Matignon. Même chose par exemple sur certaines catégories comme les profs. L'exécutif promet que cette réforme se fera sans recul de leur retraite. Une vaste augmentation des enseignants est actuellement à l'étude. Édouard Philippe qui a précisé le calendrier, il prendra la parole mercredi à midi devant le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, où il avait décliné les grands principes de la réforme en septembre dernier. Une manière d'inclure les corps intermédiaires, dont les syndicats, dans cette réforme. Rien ne se fera sans eux, explique un proche d'Édouard Philippe qui promet qu'en coulisses, au-delà des postures, les discussions avancent des deux côtés et se conseillait d'affirmer si ça n'avançait pas, les syndicats ne viendraient tout simplement plus aux concertations.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 et les propos d'Édouard Philippe ne satisfont pas les syndicats. Écoutez la réaction d'Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.
Le gouvernement joue l'opposition des uns et des autres en agitant toujours pareil l'emblème des régimes spéciaux. Mais si on ne change pas les règles en cours de partie, ça vaut pour les salariés du régime général. Les 18 millions de salariés actifs du système de la sécurité sociale, ils ont eux-mêmes, ils sont engagés eux-mêmes par une règle qui est celle des 25 meilleures années. Et donc, on ne change pas non plus, dans ce cas-là, la règle en cours de partie.
Yves Verrier, secrétaire général de FO, avec Olivier Samin. Alors, avant mercredi et la présentation officielle de la réforme des retraites, la grève continue, avec elle les perturbations dans les transports. Aujourd'hui, elles ont d'ailleurs entraîné d'importants embouteillages. 600 km de bouchons ont été relevés en début de soirée en région parisienne. Et le week-end s'annonce difficile, Aurélien Fleureau.
Alors pas de surprise, hein, ce sera encore très compliqué avec un TGV sur 6, 2 allers-retours Paris-Marseille seulement, mais 7 entre Paris et Rennes par exemple. Pour les intercités, là c'est désertique, 5 allers-retours maintenus samedi, dont 2 entre Paris et Caen. 10% seulement du trafic TER sera assuré, et encore essentiellement par des cars. Pour les transiliens en région parisienne, ça ne bouge pas, toujours 15% du trafic. Alors voilà, tout cela c'est pour samedi, mais dimanche, attendez-vous au même type de journée avec simplement quelques intercités en plus sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. La RATP a également annoncé ses prévisions pour le week-end. Quasiment pas d'amélioration avec 9 lignes de métro fermées cette fois. Simplement, les efforts seront concentrés sur la tranche horaire 13h-18h. Et puisque la mobilisation va continuer lundi, il faut s'attendre là aussi à un trafic encore très perturbé, aussi bien côté SNCF que côté RATP.
Merci Aurélien Fleurot. Et vous venez de le dire, lundi sera donc également difficile dans les transports avant une nouvelle journée de mobilisation mardi.
Europe 1, Sophie Tussaud.
17 ans après les faits, à l'issue d'un procès de 13 jours devant la cour d'assises de la Somme, le verdict est tombé. Willy Bardon est reconnu coupable de l'enlèvement, la séquestration suivie de mort et le viol d'Élodie Kulik. Il est en revanche acquitté du chef de meurtre. Maximilien Carlier, vous avez suivi ce verdict pour Europe 1. Rebondissement à l'issue de celui-ci. Le coupable a été hospitalisé ce soir après ce qui ressemble à une tentative de suicide.
Oui, il est actuellement en réanimation dans un état grave et préoccupant, c'est ce qu'a confirmé le procureur. À l'énoncé du verdict, Willy Bardon est tête baissée dans son box, aucune réaction pendant plusieurs minutes et tout à coup, il prend un cachet où ce qui semble être un médicament blanc le met difficilement dans sa bouche car il tremble. Willy Bardon attrape ensuite sa bouteille d'eau, commence à boire. Des policiers qui l'ont vu lui sautent dessus. Il est pris en charge par les pompiers, conscient, direction l'hôpital d'Amiens. Ses avocats juste devant lui se lèvent, n'en reviennent pas, ils ne comprennent pas son geste. D'après le procureur, un proche de Willy Bardon a confié qu'il voulait mettre fin à ses jours en cas de condamnation.
Maximilien Carlier à Amiens pour Europe 1. 30 ans de prison donc pour Willy Bardon. Écoutez la réaction du père d'Élodie Kulik, Jackie, qui a également perdu son épouse qui s'est suicidée en 2011.
Content, c'est quand même le résultat de 18 ans de trac. Et puis enfin maintenant, justice est rendue à Élodie. Je pourrais aller voir demain matin, demain après-midi sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait mon travail. Mais je vous dis, j'aurais le sentiment du devoir accompli. Je leur avais promis qu'on y arriverait et on y est arrivé.
Jackie Kulik à l'issue du verdict de la cour d'assises de la Somme. À Londres, 4 mois après qu'un enfant français de 6 ans a été jeté du haut du musée Tate Modern, le suspect plaide coupable de tentative de meurtre. Le jugement sera rendu en février. Le garçonnet avait subi une hémorragie cérébrale et de multiples fractures après une chute d'une trentaine de mètres. Un moment fort aujourd'hui en Pologne, la visite d'Angela Merkel pour la première fois à Auschwitz. La chancelière a réaffirmé l'importance du devoir de mémoire de l'Allemagne. Une déclaration alors que le parti d'extrême droite, AfD, qui siège au Bundestag depuis 2 ans, prône la fin de la culture du repentir. Une foule immense pour le climat aujourd'hui à Madrid, avec en tête de cortège Greta Thunberg. Objectif, mettre la pression sur la COP25 qui se tient depuis lundi dans la ville et pousser les participants à agir contre le réchauffement climatique. Un défilé peu habituel en Espagne, Henri de la Guérie.
Une mobilisation pour le climat inédite en Espagne. Ici, l'opinion publique n'était jusqu'à présent pas aussi sensible à l'avenir de la planète que les pays du nord de l'Europe. Dans la foule, les manifestants s'en prennent à Donald Trump ou Jair Bolsonaro, le président brésilien. Autour de Greta Thunberg, c'est une véritable cohue. La jeune activiste suédoise ne va plus à l'école depuis 1 an. Elle le reconnaît, ce n'est pas l'idéal, mais elle dit ne pas avoir le choix.
Ça fait 1 an qu'on fait grève et presque rien n'a changé. Pour les enfants, ce n'est pas une solution durable de rater l'école. Donc on aimerait bien que les gens au pouvoir agissent. On ne peut pas attendre plus longtemps.
Dans la foule, Rebecca, française installée à Madrid, elle estime que les États doivent en faire beaucoup plus.
Il faut que les gouvernants, les États qui sont en train de négocier, le 13 décembre, aient un accord, des engagements ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Alors bon, évidemment, je suis irréaliste, je ne suis pas sûre qu'on va avoir ce résultat-là, mais il faut qu'ils sentent que les populations, la société civile, veut ce résultat.
Pourtant, Rebecca, comme d'autres, le confie. Elle craint que cette COP25 ne soit pas à la hauteur des enjeux. Madrid, Henri de la Guérie, Europe 1.
Les sports, la natation, Laurent Manaudou devient vice-champion d'Europe du 50 mètres en petit bassin. 8 mois après son retour dans la compétition, il décroche l'argent derrière le russe Vladimir Morozov. Le football, 17e journée de Ligue 1, Nîmes-Lyon en ce moment. Romain Boselli, le match tourne en la faveur de l'OM, de l'OL, pardon.
De l'OL, effectivement, la 66e ici au Costières et 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Le break est fait, c'est Memphis Depay qui a inscrit un doublé ce soir. Il vient de doubler la mise d'une frappe lointaine, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais qui avait ouvert le score sur pénalty en première période, mais surtout les Nîmois qui ont déraillé complètement. Ils jouent à 9 contre 11 à cette rencontre. Deux expulsés pour les Crocos, Théo Valls dès la 5e minute et ensuite Paquet juste avant la pause à la 40e. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais dans cette rencontre, c'est logique, ça pourrait tourner encore plus à l'avantage des Lyonnais sur cette fin de match parce que les Nîmois sont complètement acculés dans leur défense. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais.
Merci Robin Boselli à Nîmes pour Europe 1, autre match de cette 17e journée. La victoire en début de soirée de Lille sur Brest, 1-0. Handball, fin de mondial pour les Françaises. Les tenantes du titre ont été éliminées dès le premier tour après leur défaite face au Danemark 20-18. Malgré cette mauvaise performance, il ne faut pas s'inquiéter Christophe Lamar.
Disons que cela fait mauvais genre, une grosse patte de mouche sur une copie jusque-là parfaite. Vice-championne olympique, championne du monde et d'Europe en titre, les Françaises vont jouer la Coupe du Président. Ces matchs de classement réservés aux sélections éliminées prématurément. Personne n'imaginait la France sortir si vite, et surtout pas les joueuses qui ont accusé le coup. Il flottait déjà dans l'air de Kumamoto comme un parfum de revanche, mais il va falloir ronger son frein d'ici aux Jeux de Tokyo. Cette bonne claque, comme vient de l'expliquer Olivier Crumbles, va permettre à tout le monde de se remettre en ordre de marche, et surtout de remettre de l'ordre dans son jeu. Les Françaises ont été méconnaissables et cette fois la gardienne Amandine Lesneau a fini par flancher 6 arrêts seulement contre des Danoises qui jouaient leur survie. C'est trop peu. En attaque aussi, ce fut famélique. La faute à la maladresse. La faute aussi à la gardienne Sandra Toft, véritable mur mobile. La France est éliminée au premier tour alors qu'elle visait une nouvelle médaille d'or. C'est un coup d'arrêt mais ce n'est pas encore la fin d'un cycle. L'objectif est toujours le même, décrocher le titre olympique dans 7 mois à Tokyo. Cette équipe de France-là en est bien sûr toujours capable.
Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1. Et n'oubliez pas que ce week-end, c'est le Téléthon, une 33e édition placée sous le signe des nouvelles victoires espérées grâce à la thérapie génique. Après une baisse des dons l'année dernière, l'Association française contre les myopathies espère un regain de mobilisation. On en est pour le moment à 4 348 112 euros de promesses de dons. Alors pour donner un seul numéro, le 36 37 ou bien téléthon.fr. Le temps de demain, Anissa Haddadi, et il va encore pleuvoir.
Oui, effectivement, et cette perturbation qui traverse le pays depuis aujourd'hui, elle est toujours présente demain avec sur l'Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne, la région lyonnaise, les Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, des pluies plus faibles mais toujours très présentes demain. Dans l'après-midi, ces pluies, elles seront plus rares avec même des éclaircies. Sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et le littoral méditerranéen, là, le ciel est assez dégagé. Attention, hein, le vent souffle hein, au bord de la Méditerranée, c'est le Mistral et la Tramontane qui se lèvent demain. En Corse, toujours un ciel variable avec à l'ouest de l'île des averses prévues dans l'après-midi demain. Les températures, moins 1 à Avignon, moins 2 à Lyon, 5 degrés à Saint-Étienne, Lille et Clermont-Ferrand, 7 à Paris dans l'après-midi. Midi. Nous aurons 11 degrés pour Paris, 14 à Brest, Biarritz et Montpellier.
Merci Anissa. Europe 1. Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit, La Bourse avec Claire Lemaitre et l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Thierry Cotillard, le président d'Intermarché. On se retrouve dans un très court instant.
Europe 1, le journal de la nuit.
Et enfin, un point sur la bourse à présent avec vous, Claire Lemaitre de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Et on sourit outre-Atlantique. On retrouve le Wall Street retrouve le moral pour terminer la semaine.
Oui, avec des marchés en nette hausse, le Dow Jones gagne 1,22% à 28 015 points. Le Nasdaq, lui, monte de 1% à 8 657 points. Les indices progressent grâce à de bonnes surprises pour l'économie américaine. Les créations d'emplois aux États-Unis ont enregistré en novembre leur plus forte augmentation depuis 10 mois. Et puis le moral des ménages américains s'est nettement amélioré en décembre. On surveille toujours le pétrole alors que les pays exportateurs sont réunis à Vienne. Ils se sont accordés pour réduire davantage leur production en 2020. Du coup, le WTI gagne ce soir 1,3% autour de 59 dollars. Les grands groupes pétroliers américains en profitent. Chevron et ExxonMobil gagnent environ 1,5%. Ça monte aussi pour Tesla, plus 1,7% après une bonne nouvelle pour le fabricant de véhicules électriques.
Sa Model 3 va être inscrite sur la liste des véhicules éligibles aux aides publiques pour le développement des nouvelles énergies en Chine. Et du côté des devises, l'euro monte de 0,4%. Il s'échange contre 1,1058 $.
Claire, on va s'intéresser maintenant à la séance à Paris et le CAC 40 termine la semaine en hausse.
Oui, avec une hausse confortable pour le CAC 40, plus 1,21% à 5872 points. Le marché parisien a accéléré après les bons chiffres de l'emploi américain. Le secteur du luxe engrange encore des points. LVMH monte de 1,9%, Kering de 1,7%. Très belle séance aussi pour Dassault Systèmes qui grimpe de plus de 3% grâce à une note positive d'analystes. Grosse dégringolade en revanche pour le groupe de mode SMCP, Sandro Maje, Claudie Pierlot, qui paye le prix fort pour son exposition à Hong Kong. Les manifestations pèsent sur son activité. Le titre chute de 25% ce soir.
Oui, alors ça a été difficile également pour un autre groupe, un autre secteur pour Ipsen qui a eu une séance compliquée aujourd'hui.
Oui, un plongeon de 13% pour le groupe pharmaceutique. Le régulateur américain a décidé de suspendre des études cliniques concernant le traitement d'une maladie osseuse. C'est du rouge aussi pour Air France KLM, moins 1%. La grève des contrôleurs aériens français pénalise de nombreuses compagnies, Air France en tête. Ailleurs en Europe, la semaine se termine en hausse sur les principaux marchés. Londres bondit de 1,4% et Francfort gagne 0,9%. C'est du vert pour Madrid, plus 1,5%, pour Milan, plus 0,9%. Bruxelles gagne 1,1% et à Paris, le CAC 40 progresse de 1,2% à 5872 points.
Merci Claire Lemaitre de boursier.com. Bon week-end. Prochain point sur la bourse, lundi sur Europe 1. Il est 22h18, l'heure du rendez-vous éco avec Emmanuel Duteil et son invité.
C'est l'heure de l'invité éco avec Région Job et Paris Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi sur Région Job et Paris Job.
Et Emmanuel, vous recevez ce soir Thierry Cotillard, le président d'Intermarché.
Bonsoir Thierry Cotillard.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête d'Intermarché. On est en pleine période de grève, notamment dans les transports en commun. Il va y avoir une nouvelle journée en début de semaine prochaine. Ça bloque complètement le commerce chez vous, chez Intermarché ?
Alors on a les premiers résultats des deux premières journées. C'est des chiffres en négatif. Donc oui, ça bloque. Et l'inquiétude porte sur notre capacité à approvisionner sur du moyen long terme les points de vente. Donc c'est une situation délicate, mais nous essayons avec nos adhérents de l'aborder avec le plus de sérénité possible.
Vous avez assuré votre approvisionnement ?
On a cette chance d'avoir une flotte propre à Intermarché, donc ça se passe bien. La question est plus de savoir aussi si on va pouvoir avoir accès à tous les points de vente. Et donc on a demandé à nos adhérents d'anticiper et de se stocker un peu sur des... ce qu'on appelle les pondéreux, c'est-à-dire le lait, les palettes d'eau, de manière à pouvoir répondre à la demande de nos clients.
Est-ce que vous avez eu des grévistes chez Intermarché, des collaborateurs dans ce secteur en danger de la grande distribution qui se sentiraient menacés ?
Pas dans nos points de vente. Il y a eu quelques mouvements sur des bases logistiques. Mais ce que moi j'ai envie de retenir, évidemment, de ce mouvement, c'est que on sent bien évidemment l'inquiétude qui est là sur le pouvoir d'achat. On sent l'inquiétude, la peur d'une précarité future. Et nous, en tant que distributeurs, on la vit. C'est 12% des Français qui vont aujourd'hui dans des banques alimentaires, dans des restos du cœur pour finir les fins de mois. Et donc notre rôle, c'est important de le rappeler, c'est aussi d'apporter l'alimentation au plus grand nombre en jouant un rôle sur l'inflation et en essayant de la maîtriser tous les ans.
En jouant un rôle sur l'inflation, c'est-à-dire en continuant la guerre des prix entre les grands distributeurs pour essayer de vendre toujours moins cher, mais toujours au détriment de quelqu'un. Des producteurs alimentaires, de certaines grandes marques pour lesquelles on ne va peut-être pas pleurer sur leur chiffre d'affaires, mais quand même toujours au détriment de quelqu'un.
Alors c'est toujours le raccourci qui est fait. Moi, je crois qu'on a quand même changé de paradigme avec la loi alimentation. Alors vous aurez des conclusions qui sont diverses selon les personnes que vous interrogez. Moi, je crois qu'en fait, on a une obligation aujourd'hui d'être responsable. En tout cas, c'est la volonté d'Intermarché. Donc nous, on l'a toujours dit depuis le début, nous n'opposons pas évidemment le combat qui a toujours été le nôtre de défendre le pouvoir d'achat de nos consommateurs et le soutien aux filières agricoles. Donc on a
de façon très concrète, avec cette loi alimentation, est-ce qu'aujourd'hui vous rémunérez mieux les producteurs ?
Faisons bien le distinguo, on a 20 000 agriculteurs qui travaillent avec les 62 usines qui produisent nos marques.
Mais vous avez déjà un modèle qui est particulier, mais autres, vous les rémunérez mieux ?
Ce modèle-là est vertueux puisque depuis des années, on a contractualisé, donné de la visibilité sur le revenu de nos agriculteurs. Ensuite, filière par filière, on a pris des engagements. On a été le bon élève l'année dernière pour donner le ton sur le lait. Et il faut souligner la démarche qui était le bon séquençage d'un groupe comme Bell, qui a d'abord mis un accord avec ses agriculteurs pour définir le prix du lait. Et après, on l'a repris pour prendre de l'inflation.
Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que cette loi alimentation a apporté du mieux sur le lait, qui est toujours pris en exemple. Mais c'est toujours la cata pour les autres secteurs.
C'est pas la cata pour tous les autres secteurs. Le porc bénéficie, vous le savez, d'un cours mondial qui fait qu'aujourd'hui, on est à 1,80 à
1,90. Parce que les Chinois ont eu des problèmes particuliers, donc il a fallu en acheter autant.
Mais les distributeurs ont été quand même, en tout cas pour ce qui est d'Intermarché, mais on a été aussi suivis, responsables en passant de l'inflation auprès des... On a accepté des hausses de tarifs, des charcutiers, des transformateurs, en cours d'exercice. Et ça, c'est parce qu'il y avait une prise de conscience collective de la loi alimentation et des engagements qu'on avait pris. Maintenant, vous dire que tout est vertueux, non. Mais c'est important.
Mais est-ce que cette loi a fonctionné quand même? On va en avoir le premier bilan là mardi. Hein. Il y a une rencontre gouvernementale avec les FNSEA. Est-ce que cette loi a fonctionné de votre point de vue, à vous, patron d'Intermarché?
Moi, je crois qu'on est dans la bonne direction. On est sur la bonne trajectoire. On ne peut pas être satisfait du résultat au bout de 12 mois, mais il ne faut pas enterrer une loi qui, à mon avis, va dans le bon sens. Quand on a décidé cette année que pour toutes les PME françaises, il n'y aurait pas de déflation, je peux vous assurer que c'est l'effet de la loi alimentation. Sinon, cette position, je pense qu'on ne l'aurait pas tenue il y a 4 ans.
Alors, vous partez sur un produit bien particulier en guerre pour être le moins cher. C'est ces fameux marchés des robots ménagers. Bien évidemment, on connaît le Thermomix, mais la chaîne Lidl a créé un carton total avec son Monsieur Cuisine. Et vous arrivez avec DigiCook, qui comme par hasard est 10 euros moins cher. Pourquoi se lancer sur ce marché des robots ménagers?
Il arrive mardi prochain dans nos Intermarchés, il y en aura 30 000. Nous, on a cette mission d'apporter le mieux manger, donc à un moment de pouvoir permettre à nos clients d'avoir un robot de cuisine, non pas à 1300 ou 1400 euros, mais à 349 euros, on pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, la concurrence est saine, c'est-à-dire, bien sûr, vous venez de le citer, un concurrent a lancé cette démarche, il peut pas avoir le monopole non plus de faire des bonnes affaires. On a suivi, on est clairement suiveur sur ce coup-là, mais c'est au bénéfice de nos consommateurs, donc c'est une très bonne chose pour les clients d'Intermarché et de Netto.
Lidl avait été complètement dépassé par le succès, au point vraiment de créer un scandale et quasiment à la limite de la loi en termes d'approvisionnement. Vous êtes prêt?
On anticipe le phénomène, on sait qu'on va être, je pense aussi, je ne sais pas s'il y aura des émeutes, mais en tout cas, il y aura une vraie attraction sur le sujet. Deux choses, on a bien précisé que les quantités étaient limitées, et puis surtout, on va prendre les commandes des clients qui ne seraient pas possesseurs du robot cuisine en fin d'opération. C'est-à-dire que s'il n'y en a plus dans le point de vente, on prendra le nom des consommateurs et on s'engagera, dans un délai qui nous reste à définir, mais dans les mois qui suivront, à reproduire et à pouvoir évidemment fournir nos consommateurs.
Là, vous reconnaissez que vous êtes suiveur. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur des produits où vous seriez meneur?
Mais évidemment.
Sur quoi alors? Révélez-nous.
En fait, nous, ce qui nous importe, c'est évidemment de pas suivre. Sur ce coup-là, j'assume totalement de suivre. Mais d'une manière générale, Intermarché a d'ailleurs souvent créé des codes et les a imposés à la profession. Le prix au kilo, c'est nous. Le Nutri-Score, qui était chez nous.
Mais c'est vrai que, par exemple, Lidl, aujourd'hui, est la chaîne qui progresse le plus. On n'a quasiment jamais vu ça de l'histoire de la grande distribution. Quelqu'un qui gagne autant de parts de marché en si peu de temps, tout le monde court après. Carrefour ou vous?
Alors nous, on fait partie, avec Leclerc, des grands gagnants aussi cette année, puisque, vous le savez, Intermarché a 50 ans. On avait un objectif, c'était de faire 15 points. Et en fait, le fait d'avoir pris un point depuis 4 ans, c'est 74 millions. Vous vous rendez compte, le chiffre, 74 millions de Français qui sont venus en plus dans nos Intermarchés non Netto. Donc nous, on est plutôt satisfaits de la tendance. Et bien évidemment, quand on voit Lidl qui sort son robot cuisine, vous pensez bien que dans notre état d'esprit, le panache du mousquetaire, c'est pas de suivre, hein, c'est d'avoir de l'audace. Et donc bien évidemment, on prépare un plan d'action commercial 2020, où si sur le Nutella, on doit s'arrêter à 34%, je peux vous assurer qu'on va pas s'interdire sur un tas de produits, notamment non alimentaires, de faire du commerce et d'attirer les consommateurs chez nous.
Eh bien, merci beaucoup d'être passé ce soir par Europe 1. Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, était notre invité ce soir. On se retrouve lundi, 22h20 sur Europe 1.
Merci Emmanuel Dutheil, c'était l'invité. Quoi, vous pouvez bien sûr réécouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Restez avec nous, on jette un coup d'œil sur les titres que vous retrouverez à la une de vos journaux demain. À tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud.
À la une de la presse demain, trois hommes en première page de Libération syndicale, retour en fanfare. On les disait à bout de souffle, dépassés par les gilets jaunes. Pourtant, grâce à une mobilisation massive soutenue par l'opinion, les grandes centrales ont lancé avec succès le bras de fer sur les retraites. Second round mardi. Les retraites, il en est question également dans le Figaro. Sous pression, l'exécutif cherche la sortie. Édouard Philippe espère apaiser la contestation en présentant l'intégralité de la réforme mercredi prochain au lendemain d'une nouvelle journée de manifestation. En une du Figaro économie, on parle fiscalité. Les États-Unis bloquent la taxe mondiale du numérique. Washington propose que les nouvelles règles négociées entre 134 pays ne soient qu'une option pour les entreprises. Inacceptable pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. West France, de son côté, a choisi de parler d'un phénomène de plus en plus préoccupant pour les éleveurs, les intrusions. Fermes incendiées, animaux d'élevage libérés, vols, la liste des actions d'antispécistes dans les exploitations s'allonge. À bout de nerfs, les éleveurs demandent un arsenal juridique. Les pouvoirs publics, quant à eux, réagissent. C'est à lire en page 5 de West France. Voilà pour les unes de la presse de demain. Et avant de refermer ce journal de la nuit, on reprend la direction de Nîmes. Nîmes qui reçoit Lyon. Romain Boselli, qu'est-ce que ça donne ?
Et c'est un match qui tourne très clairement à l'avantage de l'Olympique Lyonnais. 4-0 désormais dans cette rencontre ici au Costières. On joue la 84e minute et c'est une démonstration des Lyonnais. Depay à la 16e sur pénalty. Depay à l'heure de jeu, encore lui à la 63e. C'est Oussem Aouar à la 71e qui a triplé la mise sur un tir dévié dans son propre but par Briançon. Et le 4e but est signé Joachim Andersen pour les Lyonnais. Le match qui a très logiquement tourné à l'avantage de l'Olympique Lyonnais après ses deux cartons rouges pour Nîmes, expulsé donc dès la 5e minute. Gaëtan Paquiez qui a eu pris ce carton rouge, et Théo Valls également pour les Nîmois. Ça tourne à la correctionnelle pour les Nîmois qui ont déjà pris 6-0 cette semaine du côté de Bordeaux. 4-0 pour l'instant, et ça n'est peut-être pas fini dans cette partie. Vous le voyez, ça sent clairement la crise pour le Nîmes Olympique qui est lanterne rouge de cette Ligue 1. Pour Lyon, en revanche, c'est une très bonne opération qui se dessine avec ce succès en vue. Retour en vue dans le top 5 pour les joueurs de Rudy Garcia. De très bon augure avant un match capital de Ligue des Champions contre Leipzig. Ça sera en milieu de semaine, la semaine prochaine, donc pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, les Lyonnais qui se rassurent ce soir après cette défaite en milieu de semaine contre Lille. Ils se dirigent très clairement vers une victoire 4-0 pour l'Olympique Lyonnais ici au Stade des Costières. On joue la 85e.
Merci Romain Boselli en direct de Nîmes pour Europe 1. Il est 22h29 à présent, c'est l'heure des confidences et on retrouve Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir à vous Sophie.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, je vous remercie, vous ?
Ça va très bien, c'est le début du week-end. Les auditeurs peuvent vous appeler en faisant le 39 21 et on se retrouve dans un petit moment.
Le rendez-vous est pris dans une demi-heure pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.